Radio Campus est cette année encore partenaire du festival Latitude Contemporaine, un festival atypique qui fête sa 20e année. Retrouvez les invités, les reportages et les interviews réalisées par notre équipe spécialement mobilisée pour couvrir ce festival dans l'émission Quoi de Neuf, qui consacre 4 rendez-vous de 16h à 17h chaque mercredi du 8 au 29 juin. Voilà, et bien c'est aujourd'hui le premier rendez-vous de cette série de 4 mercredis 16h-17h pour vous présenter en détail ce festival atypique de notre belle région. Alors, je pense que le mieux c'est de faire la présentation tout d'abord de notre équipe de journalistes avec Élodie Miklas. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Et puis donc Nina Weiler, bonjour.
Bonjour.
Nina. Voilà, et donc c'est vous qui allez piloter cette émission. Moi, je reste l'homme de l'ombre et de la technique et je vous laisse présenter votre invité.
Donc on se retrouve en direct sur Radio Campus avec la directrice artistique du festival Latitude Contemporaine. Bonjour Maria Carmela Mini.
Bonjour.
Ça fait plusieurs années que vous nous faites l'honneur de venir avant le début du festival, donc merci beaucoup. Et donc l'inauguration de Latitude Contemporaine, c'est ce soir.
Tout à fait, oui.
Avec deux représentations, Nipsey Hope à 19h au Grand Sud, suivi de Cascade à 20h au même endroit. À quelques heures de l'inauguration, en tant que directrice artistique, comment vous vous sentez ?
Impatiente. parce qu'évidemment, on prépare ce festival depuis maintenant plusieurs mois. Évidemment, c'est une reprise, même si le festival a eu lieu l'année dernière, on est toujours inquiet avec cette pandémie qui est toujours persistante et qui nous fait jouer à cache-cache un petit peu avec nous. Et donc voilà, c'est aussi l'aboutissement d'un long mois de travail. Et on est heureux, évidemment, et heureuse de pouvoir enfin à nouveau accueillir le public.
Est-ce que après toutes ces années d'expérience, il y a toujours du stress et de l'appréhension?
Oui, tout à fait. Parce que rien n'est jamais gagné. Donc il faut mettre l'œuvre sur l'établi en permanence. Et donc on est évidemment, même si on a tout préparé, tout bien réfléchi, etc. Il y a toujours du stress parce que c'est comme l'entonnoir, j'appelle ça mon entonnoir, c'est-à-dire que on essaye de préparer tout au mieux, puis après ça doit rentrer dans le petit tuyau là de la fin de l'entonnoir pour que tout passe. Et donc voilà, on est à ce moment-là. Et puis une fois que le public est là, en fait, c'est un peu ce que on appelle aussi la magie du spectacle, c'est-à-dire que une fois que le public arrive, paf, et tout se réouvre et donc on est à quelques heures de ce moment-là et c'est en effet un peu de stress, mais on sait que ça va bien se passer.
Je vous le rappelle, Latitude Contemporaine, c'est 3 semaines de représentation sur Roubaix et Lille, donc du 8 au 29 juin. Vous, c'est quoi ce que vous attendez avec le plus d'impatience versus ce qui vous appréhendez le plus sur ces 3 semaines?
Eh bien, c'est le public, parce que nous, on a, l'équipe a tout fait pour que tout se passe bien, comme je le disais tout à l'heure, mais on est dans une période, et je pense que la crise de la pandémie a ajouté ce phénomène, c'est-à-dire qu'on est, le public réserve très très tard, et donc on ne sait pas s'il il sera là, donc c'est très inquiétant tout le temps, et puis finalement bah, il est là, et donc, mais ça procure beaucoup de stress, évidemment, à quelques jours de se dire, ah mais les spectacles ne sont pas tout à fait pleins, donc qu'est-ce qui se passe. Et puis brusquement, ça se remplit. Et donc, ce que j'attends, c'est que le public d'abord soit là, comme je le disais, et puis qu'il y ait une belle rencontre entre ce public et puis les spectacles que je propose et que les artistes se sentent bien aussi dans ce festival.
Et le festival Latitude Contemporaine, ce n'est pas seulement de la danse, c'est aussi des rencontres, du théâtre, des concerts, des installations interactives. Qu'apporte cette diversité culturelle ?
En effet, on a ce qui est important de dire, c'est que un festival, c'est évidemment un moment donné, et c'est sur une courte période. C'est ça qui fait le fait festivalier, hein, c'est que c'est un événement régulier qui va durer un temps X sur un territoire. Et donc, ce temps X, c'est la face immergé de l'iceberg, parce que évidemment tout le long de l'année, et mon équipe et moi-même travaillons à ce que les artistes soient là d'abord, parce qu'il faut que le planning soit mis en place, mais il y a un gros travail en fait en direction des publics, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'action culturelle qui n'est pas forcément visible au moment du festival, mais qui est réellement fait tout au long de l'année, pour que justement le plus grand nombre, et en particulier le public éloigné, puisse avoir l'information et puisse venir voir les spectacles qu'on propose dans les meilleures conditions possibles. Et pour ce faire, évidemment, on propose un panel le plus de spectacles et de rencontres le plus large possible, de manière à ce que tout un chacun puisse entrer dans le festival par la porte d'entrée qu'il souhaite. Donc ça peut être en effet par de l'action culturelle, mais ça peut être aussi par uniquement les concerts, ça peut être aussi par uniquement la danse, ça peut être uniquement par la performance et le théâtre. Voilà, et en fait mon rôle à moi, c'est d'offrir le plus grand nombre de portes d'entrée et pour y accueillir le plus large possible de public.
Et chaque année, il y a un thème différent. Et cette année, c'est le développement durable, mais dans son sens large. Donc, ça inclut le social. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'engagement du festival dans un thème précis chaque année ?
Alors, en fait, moi, j'appelle pas ça thème, parce que j'appelle ça plutôt récit. parce que je me dis pas un jour en me réveillant, cette année, je vais travailler sur ça ou ça. C'est pas du tout comme ça que je travaille. En fait, je vais voir énormément de spectacles. Donc, pandémie ou pas, j'essaye d'aller en voir le maximum possible. Et en fait, c'est presque les artistes qui vont me guider en fonction des spectacles que je vais aller voir. Je vais me dire, tiens, la tendance actuelle au niveau artistique, c'est tel sujet ou tel sujet. Et puis, je vais me dire, ben voilà, puisque les artistes prennent en charge ce récit, enfin, en tous les cas, cette thématique, ben moi, je vais en faire un récit. Et donc, cette année, en effet, c'est sur le développement durable. Et donc, il y a plusieurs possibilité d'appréhender ces questions de développement durable. Nous, on a choisi de le faire là aussi de manière très large, c'est-à-dire de l'appréhender tel que l'agenda 21 de la culture les défend dans tous les cas, c'est-à-dire y mettre à l'intérieur les droits culturels, la liberté de création, la paix dans le monde. Donc je n'ai plus les termes exacts de l'agenda 21, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vision beaucoup plus large que uniquement celle du développement durable d'un point de vue purement écologique.
Donc en fait, c'est les spectacles, c'est de voir les spectacles qui mènent au récit et pas plutôt un récit qui est décidé et ensuite on crée les spectacles.
Je parle vraiment des artistes. Et c'est pour ça que en fait, l'Attitude Contemporaine, ce n'est pas seulement un festival, c'est aussi un bureau d'accompagnement d'artistes, parce que je dis souvent qu'il faut que j'ai besoin d'avoir les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que je peux pas être loin de la création. Donc on accompagne 10 artistes, et les artistes, ils ont des antennes, donc ils arrivent à me guider en fait, hein, et de me dire là on a envie de travailler sur ce sujet parce que c'est urgent. Enfin, il y a une urgence de parler de ça. Et le fait d'être au quotidien avec des artistes qui eux sont au travail, hein, en train de créer, me permet d'avoir cette intuition aussi de ce qui va se mettre à l'œuvre. Et donc oui, en effet, c'est bien comme ça. Et c'est pour ça que c'est pas du tout une liste d'artistes que je vais mettre bout à bout. Il y a vraiment l'idée du récit, c'est-à-dire qu'il y a une dramaturgie vraiment de la programmation. Et d'ailleurs, beaucoup de collègues me disent, mais quelle cohérence dans ta programmation, c'est incroyable, c'est vraiment presque une leçon. Et en fait, c'est parce que je m'abstiens à faire ce récit. Et d'ailleurs, je programme très très tard. La manière dont je travaille, c'est je vais voir beaucoup beaucoup de spectacles. Je ne dis rien aux artistes. Je ne dis pas que je vais les programmer parce que j'ai besoin de ce temps où je vais digérer tout ce que j'ai vu. Et à un moment, je me dis, bon, maintenant, ça y est, je vais pouvoir construire le récit avec toute la matière que j'ai, avec tous les spectacles que j'ai vus, je vais pouvoir construire ce récit. Et donc j'appelle un tel, donc ça va être pour trouver une pertinence, ce sujet-là, je vais l'aborder comme ça avec un concert, et puis en fait on va aussi donner un autre point de vue à travers un spectacle de théâtre, et puis on va amener une contradiction avec une performance ou avec de la danse, et donc voilà, et en fait au final, les spectacles, ils vont se parler les uns aux autres. Et c'est ça qui m'intéresse. Et le public, évidemment, lui, le spectateur ou le spectatrice qui va venir tout voir, il a une chance incroyable parce que, en fait, il va comprendre que rien n'est hasard, qu'il n'y a aucun spectacle qui est dû au hasard, que tout est tenu et cohérent. Et donc, c'est ça qui vraiment m'intéresse.
Il y a une cohérence et en plus, les artistes, ils sont internationaux, ils viennent de partout.
Oui.
Et pourtant, on arrive à cette cohérence de programmation malgré la multitude de sujets qui peuvent être abordés par des artistes internationaux.
C'est mon travail. C'est mon travail et c'est ce que j'aime faire, oui. Je défends, donc je suis présidente, coprésidente de la Fédération France Festival, et à France Festival, on défend vraiment l'idée de direction artistique. Enfin, c'est un vrai métier et on défend ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Fédération, les festivals qui veulent adhérer à la Fédération doivent montrer qu'ils ont une directrice ou un directeur artistique, parce que on tient à ça.
Du coup, vous dites que vous êtes très passionnée quand vous en parlez de la direction artistique, c'est très beau à entendre. Est-ce que c'est vraiment vous, du coup, qui allez chercher tous les artistes, ou on peut quand même, si on a une troupe de danse, postuler pour faire partie du festival?
Ah oui, j'ai pléthore de demandes tous les jours. Ma boîte mail, on est emplie, et je m'excuse déjà auprès des artistes auxquels je ne réponds pas, mais parce que par manque de temps, tout simplement, pas par négligence ou mépris, et pas du tout. J'aime beaucoup les artistes et je suis très souvent frustrée de ne pas pouvoir leur répondre, mais il m'arrive en effet de recevoir des mails en disant je suis une jeune artiste, je suis là, et puis je vais lire le dossier, puis brusquement je dis ah ouais, ça a l'air vraiment intéressant, puis je vais aller voir. Ça arrive, mais j'appelle pas, enfin on m'envoie les dossiers, et je vais aller voir, donc c'est un vrai choix, oui. Je vais pas choisir juste comme ça sur un dossier, ça c'est en particulier lorsqu'il s'agit d'artistes émergents, parce que l'émergence c'est quelque chose de fragile, et je dis souvent, parce que parfois les artistes me disent « Oui, tu dis que tu accompagnes les artistes émergents, je suis une artiste émergente, tu m'as jamais accompagnée, ou pourquoi tu m'accompagnes pas, etc. » Mais en fait, il faut trouver le moment. Parfois, j'ai vu des artistes se retrouver dans des situations extrêmement complexes, difficiles, douloureuses même, juste parce qu'ils ont été programmés à des endroits très exposés très tôt. Et ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Et faire de la direction artistique, c'est aussi ça, c'est-à-dire sentir si c'est le bon moment pour exposer tel artiste de manière aussi forte dans un festival. Et c'est pour ça que parfois, je présente des artistes émergentes ou émergents, je les présente d'une certaine manière, par exemple dans des lieux qui sont un peu plus discrets, parce qu'il faut y aller avec douceur. Donc, et parce que, en particulier, je vais parler de mon coprésident qui dirige le Festival d'Avignon, mais de France Festival, donc Pierre-Paul Rodin, qui est. Et j'ai vraiment vu parfois des artistes vouloir absolument aller au Festival d'Avignon, mais aller au Festival d'Avignon, quand vous êtes devant un gradin de 300 professionnels dans une salle de 600, si vous vous plantez, vous vous plantez, quoi. Et vous vous relevez jamais. C'est-à-dire que c'est fini. Donc, il faut être vraiment attentif à ça, en tous les cas.
Et parmi les artistes, est-ce qu'il y en a qui reviennent régulièrement chaque année ?
Oui, bien sûr que j'ai mes artistes fétiches. Mais là aussi, c'est pas du fétichisme pour du fétichisme. Ça vient. C'est bien que vous posiez cette question juste après que je parle de ce que c'est l'émergence et de la prudence qu'on doit avoir vis-à-vis de ça. C'est aussi justement pour ce travail d'accompagnement sur le long terme. Et parfois, j'ai présenté des artistes sur 5-6 éditions parce que je veux que le public rencontre cet artiste. Et parfois, ça prend du temps. Et donc, le cas le plus fort, j'ai envie de dire, et le plus emblématique de ça, c'est François Chéniaud. François Chéniaud, j'ai quasiment présenté tous ses spectacles, et il sera là encore cette année. François Chéniaud, la première fois où je l'ai présenté à l'Attitude Contemporaine, c'était dans les escaliers, c'était dans une toute petite pièce, genre de loge, à l'Oiseau-Mouche, et il faisait une performance où il était dans des matelas, et donc il dansait à l'intérieur des matelas. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, François Chéniaud, c'est l'artiste chorégraphique, je pense, le plus important de la scène chorégraphique française. Et il joue sur les plus grosses scènes internationales. Donc, vous voyez, et c'est important de créer cette confiance, fusion, presque, je dirais, entre l'histoire d'un artiste et l'histoire d'un festival, parce que ça crée quelque chose sur un territoire, en fait, et auprès d'un public.
L'identité du festival, ça passe évidemment par les danseurs, les chorégraphes, etc. Mais ça passe aussi par l'identité visuelle. Mm-hmm. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que vous avez vu passer dans toute la ville les affiches très reconnaissables, blanches et roses. Enfin, je trouve que ça fait très danse contemporaine quand on voit ces affiches. Et le design, il a changé depuis l'année dernière, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la collaboration avec Zineb Benassourou ?
Oui. En fait, on a travaillé avec les produits de l'épicerie Philippe Delforge en particulier pendant plusieurs années. Il a fait, je pense, 18 éditions, oui. Donc vraiment un parcours au long cours avec Philippe Delforge, et en fait à un moment on s'est dit bon voilà, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire et puis on va passer à autre chose, et en fait à ce moment-là je me suis dit oui tout à fait, on va passer à autre chose en termes de communication et de visuel, et en fait comme le festival je le revendiquais de plus en plus, et plus au lieu de, oui, je pourrais même dire assumer plus que revendiquer. Je l'assumais de plus en plus vraiment comme un festival engagé, un festival qui s'attache à être un porte-parole de problématiques liées au réel, aux problématiques de société. Je me suis dit, ben, en fait, il faudrait qu'on fasse presque comme des slogans. Et j'ai eu vraiment ça, en fait, dans la tête. Je me suis dit, ah, mais moi, j'ai trop envie de slogans, enfin, de revendiquer encore plus, quoi, quelque chose. Et puis, donc, on a rencontré Zineb, et puis, je lui ai dit, ah, mais toi qui travailles sur l'écriture, parce qu'elle, dans son travail de graphiste, elle est vraiment sur ce travail d'écriture. Et je me suis dit, mais est-ce que tu aurais envie de travailler sur les slogans ? Et elle a adoré l'idée, quoi. Et donc, on est vraiment parti sur l'idée des slogans. Et moi, j'adore. Et en fait, maintenant, enfin, alors que ça fait que 2 ans, les gens reconnaissent que quand il y a un slogan et qu'avec ce dessin très, ce graphisme très en ondulation, hein, et en effet avec une couleur, donc l'année dernière, c'était jaune, aujourd'hui, c'est un peu magenta, ça y est, c'est déjà rentré dans l'esprit des gens, c'est l'attitude contemporaine. Et avec des slogans comme « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'en fait, ça, il n'y a pas d'image, il y a juste du texte. Et en fait, ça interpelle beaucoup plus que s'il y avait des images. Et c'est ça qui est intéressant, en fait.
Pour la 20e édition du festival, justement, sur l'affiche, on voit très peu... Enfin, la 20e année est... La 20e édition, plutôt, oui. Et peu mise en avant en fait. Et pourquoi il y a ce choix-là de peu mettre en avant l'anniversaire du festival ?
Bah, quand même, si on prend les trois slogans les uns après les... Enfin, côte à côte, ça écrit 20 ans avec un point d'exclamation, mais il faut en effet mettre les trois slogans côte à côte. C'est sûr qu'on a, enfin, on aurait pu faire une grande fête, des feux d'artifice 20 ans, etc. Enfin, et en fait, j'avais pas du tout envie de ça. Parce que c'est pas dans l'identité de l'attitude contemporaine. L'attitude contemporaine, c'est toujours, on marche, quoi. On avance, on va, on regarde de l'avant. Et fêter un anniversaire, c'est toujours un peu regarder en arrière, faire le bilan, etc. Et moi, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire un bilan, quoi. Donc, je vais laisser ça aux historiens dans quelques années. c'est leur travail. Et moi, j'ai envie encore d'aller de l'avant et de regarder ce dont vont parler les artistes dans 2 mois, ou dans 4 mois, ou dans 6 mois, ou dans 8 mois, ou dans 1 an. Là, on est en train déjà de travailler. Enfin, ça fait presque 2 mois que je commençais à travailler sur l'édition 23. J'aborde des choses en avant, quoi. Donc vraiment, j'avais pas du tout envie de fêter ça de manière un peu nostalgique ou je sais pas quoi. Enfin, en tous les cas, regarder derrière nous. Je voulais vraiment qu'on regarde devant nous. Mais bien évidemment, il y aura plein de fêtes pour fêter nos 20 ans. Je rassure les auditrices et auditeurs, il y aura plein de fêtes.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre partenariat avec Utopia, l'île 3000, qui est en ce moment à Lille. On a vu les statues dans les rues, etc. Et j'ai vu que certains spectacles étaient donc en collaboration avec Utopia 3000. Et du coup, je me demande qu'est-ce qu'on peut dire sur cette collaboration ?
Écoutez, on est une partie de la programmation, en effet, est à l'intérieur d'Utopia, puisqu'on a une partie du récit en commun, on va dire, puisque Utopia, c'est sur le développement durable. Ça nous paraissait évident qu'une partie de la programmation de l'attitude contemporaine soit à l'intérieur d'Utopia. Le partenariat, c'est un partenariat sur la visibilité, sur des moyens financiers, puisqu'ils financent une partie du festival, 10%. Sur des lieux qu'on met en commun et des publics évidemment en commun.
Et c'est la première fois aussi que le festival d'attitude contemporaine est en collaboration avec le Conservatoire de Lille. Oui. Et apparemment, c'est toute l'année. Et donc,
tout à fait.
Comment ça se traduit
Alors, justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les actions culturelles qu'on met en place toute l'année. Donc, on est en train de développer un gros projet sur la Melle avec plusieurs villes. En effet, ce partenariat nouveau avec le Conservatoire, il nous est apparu tout à fait pertinent d'avoir ce travail d'atelier, de workshop, étant donné qu'on travaille avec des artistes toute l'année et qu'on monte des projets toute l'année avec les artistes, c'était presque une évidence en fait que ces artistes puissent croiser le public du Conservatoire et faire des projets communs. Et ça sera le cas aussi avec l'Université de Lille. On ne s'est pas encore rencontré avec le directeur, mais c'est dans les tuyaux.
Et du coup, cette année aussi, c'est la première fois qu'il y a un système tarifaire qui s'appelle « Payez ce que vous voulez ».
Oui.
Et est-ce que ça a déjà donné des résultats, puisque là, il y a certains spectacles qui sont déjà complets, est-ce que ça a déjà donné des résultats concluants de mettre ce système-là ?
Alors, je n'ai pas encore eu de remontée statistique de mon équipe. Ce que je sais, c'est que c'est plutôt très apprécié par le public. Quand je dis les statistiques, c'est est-ce que les gens payent plus que ce qu'ils devraient payer si on était sur des tarifs minima sociaux payés autant, etc. etc. Étudiants payés autant et ceux qui ont les moyens payés autant. J'ai pas encore fait de remontée de mon équipe à ce sujet. Par contre, c'était pas du tout pour des raisons économiques que j'ai fait ça, donc c'est pour ça que je m'y intéresse peu en fait sur les remontées économiques. Mais ce qui me paraissait extrêmement important, c'est de ne parce qu'on a fait pardon, je vais un peu dans tous les sens, mais j'essaye de construire le fil pour être cohérente aussi dans ma prise de parole. En fait, on a essayé sur tout le festival de travailler sur les questions d'inclusion. Donc les inclusions sur les diversités sociales, sur les diversités culturelles, sur la diversité des publics, etc., etc. Et donc et l'inclusion aussi des personnes en situation de handicap, etc. également. Et donc c'est posé la question du tarif. Et je me suis dit, mais en fait, quand on met minima sociaux, payez autant, mais vous allez devoir montrer que vous êtes bien bénéficiaire des minima sociaux avec un document justificatif. Je me suis dit, mais en fait, on stigmatise énormément les gens en faisant ça parce qu'on les met dans une catégorie. Vraiment être au bout, vous êtes pauvre, quoi. Enfin, je vais utiliser un mot dur exprès. Hein. Donc vous êtes pauvre et donc vous êtes stigmatisé comme pauvre et donc vous allez devoir payer, mais en même temps, vous justifiez que vous êtes pauvre. Et en fait, je me suis dit, mais c'est hyper violent en fait de faire ça dans la société aujourd'hui, alors qu'on parle d'inclusion, etc. Et je me suis dit, mais en fait, demandons aux gens ce qu'eux, ils en pensent. Et on va faire un tarif libre, donc on va dire, y a un tarif à 7 euros, un tarif à, je ne les connais même pas, un tarif à 8, un tarif à 5, un tarif à 8 et un tarif à 12. Et à vous de nous dire ce que vous estimez être en capacité de payer. Et en même temps, donc d'une part, on ne stigmatise pas les gens, parce qu'on ne demande pas de justificatif. Et aussi, c'était pour interpeller, une manière d'interpeller le public en disant à combien vous estimez le coût de la culture. Parce qu'on parle souvent de gratuité, souvent les personnes, nos subventionneurs ils disent « Ah, mais peut-être qu'il faudrait que vous réfléchissiez à la gratuité. » Moi, je dis « Ben non, la gratuité, c'est pas bien parce qu'en fait, ça dévalorise quelque part un projet artistique et puis le projet des artistes, le travail des artistes. » Donc, en fait, je me suis dit « Ben non, en fait, on va demander au public qu'est-ce qu'il a envie de payer pour aller voir un spectacle. » Et c'est, je trouve, aussi responsabiliser le public à cet endroit-là.
Du coup, je vais continuer sur la grille tarifaire parce que j'ai vu qu'il y avait le système aussi de billets suspendus. Oui. Et donc ça, c'est encore un autre système qui est là depuis plusieurs années, par contre.
Tout à fait. Et cette année, il fonctionne très, très bien.
Oui, il y a déjà des cas de billets suspendus. Oui, tout à fait. Mais c'est en relation avec des associations ou c'est vraiment une personne particulière qui...
Alors, c'est presque au cas par cas, c'est-à-dire que quand on ouvre la billetterie, donc il y a une affiche en disant ce soir, nous avons 5 billets suspendus. Et donc, il y a le public lambda qui va pouvoir dire, moi, est-ce que je peux utiliser un billet suspendu parce que j'ai envie de venir voir le spectacle et puis, oui. Ou en effet, on passe par des associations qui nous disent on a dans notre association X personnes qui ne peuvent pas payer un billet d'entrée. Est-ce qu'on peut utiliser les billets suspendus? Et on dit oui, bien sûr. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de Neuf, qui, pour 4 mercredis consécutifs, vous parle du Festival Latitude Contemporaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Maria Carmela Mini, la directrice de Latitude.
Mmh.
La 20e édition du festival Latitude Contemporaine débute aujourd'hui. Dès ce soir, comme l'a dit Nina, le Grand Sud accueille deux représentations. À 19h, Nipsey Hope inaugure le festival, fruit d'un atelier avec la chorégraphe Solène Athanasopoulos, la costumière Kata Lorda et les jeunes de l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Cascade succède à Nipsey Hope à 20h, représentation dans une ambiance galactique, chorégraphiée par Meg Stewart et scénographiée par Philippe Ken. Pour la première semaine de cette 20e édition, le festival investit Roubaix dès demain avec Arca Ostinata à 19h30, opéra centré sur le théorbe avec le musicien Daniel Zapico et mise en scène par Nino Lenné. À la maison Folie Wazem à 21h, la Croate Ivana Muller déjoue les forces de la nature grâce à sa pièce humoristique suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique. Vendredi 10 juin, direction Roubaix pour deux installations, Les héroïnes d'aujourd'hui et Worktable, qui repensent respectivement l'espace public et la productivité. À 20h au Grand Sud, la soirée s'annonce musicale avec l'artiste Nassima Omid, le trio Mademoiselle et le DJ set de Wael Alkak. L'installation Worktable est également à redécouvrir au cours du week-end, toujours à la condition publique de Roubaix, qui accueille d'ailleurs samedi le récital de François Chéniaud, en co-réalisation avec l'Orchestre National de Lille. Le même jour à 18h, le chorégraphe Alain Platel présente Chœur à l'Opéra de Lille, une représentation à retrouver aussi le 13 et 14 juin prochains. Enfin, cette première semaine du festival prend place dans des lieux inédits, tels que la médiathèque Jean Lévy, samedi à 21h à travers la performance Isirori de Consolate, ou encore le Jardin des Plantes entre 15h et 18h, dimanche avec l'installation interactive hors champ d'Ivana Muller. Pour information, si certains de nos auditeurs cherchent une sortie pour ce soir, il reste quelques places pour la représentation Cascade de Meg Stewart qui est donc à 20h au Grand Sud. Et avec, pour rappel, comme nous en avons parlé, des tarifs qui vont de 5 à 12 euros.
Voilà, c'était donc la première émission de cette série de 4 consacrée au festival Latitude Contemporaine. Un grand merci à Maria-Carmela Mini d'être venue donc présenter cette édition, hein, qui est comme d'habitude particulière.
Absolument.
Très bonne journée et puis donc bon festival qui démarre ce soir, profitez bien.
Quelques minutes, oui.
Bonne rentrée donc dans le lieu où ça va se passer.
Hein. Grand Sud, oui. Merci beaucoup.
Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour des invités, des reportages et des interventions. Enfin voilà, on laisse notre équipe composée d'Élodie Niclas et de Nina Weiler. Et il y aura Alice Lejeune qui nous rejoindra plus tard. Donc tout va bien. On parlait donc d'Utopia, l'île 3000, et bien tout à l'heure, enfin dans 10 minutes, hein, je vais vous diffuser une interview que j'ai faite de Anna Komarova, qui est une artiste qui présente à la gare Saint-Sauveur une installation avec des forêts qu'on peut entendre, on peut écouter, et voilà, elle est vraiment intéressante. C'est une artiste russe qui est donc, pour l'occasion, qui est venue faire un tour à Lille pour le démarrage de ses expositions, hein, de l'île 3000. Il y a beaucoup de lieux concernés, là c'est la 4e émission qu'on consacre à ce grand moment, Utopia. L'île 3000, donc édition donc 2022.